Alors, bonsoir. Bonsoir, bonjour pour ceux qu'on a déjà vus. Bienvenue à ceux qui arrivent. Un rebond à la table ronde de ce matin qui était focalisée sur les réseaux humains, les humains et leur système et la technosphère. Et puis un rebond aussi à la projection des films qui ont été présentés par Romain Touchard sur le monde réel des humains et l'histoire des mines, l'histoire des ressources, l'histoire de la matière. On voulait faire cet après-midi une partie vraiment liée au système naturel. Et donc on a intitulé cette rencontre, cette quatrième table carrée avec un quadrilogue, on voulait l'intituler « Biosphère sauvage ou domptée ». Alors c'est vrai, tout à l'heure en terrasse, là, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion et que la biosphère sauvage ou domptée, ça, on pouvait avoir plein d'interprétations. Mais l'interprétation qui était la nôtre, c'était de dire ben, la partie anthropisée, la partie jardin, la partie agriculture, la partie nature nourricière, on s'est dit que c'était peut-être celle-là qu'on avait tenté de dompter. Et celle qui était plus sauvage, c'était celle où on avait les endroits où on avait laissé les forêts en libre évolution, mais ces endroits-là se font très rares. Et je sais qu'il y a un projet de Francis Allais qui travaille sur la reconstitution ou la régénération d'une forêt primaire en Europe. Mais en tout cas, la nature, enfin la biosphère sauvage, elle n'existe plus vraiment. Parce que même en forêt, nous on est habitué à dire à la forêt, mais c'est vrai que la forêt c'est souvent des anciens vergers chez nous. Donc voilà, on voulait faire ce rebond, comme je le dis et je le répète souvent, les hommes et la biosphère, donc les hommes et leurs indispensables systèmes, c'était ce matin jusqu'à ce début d'après-midi, et la biosphère, l'endroit où toutes les ressources naturelles sont disponibles sur cette planète, c'est avec sa partie sauvage et sa partie domptée pour réussir à manger. C'est le thème de cet après-midi. Alors j'ai proposé à Yannick hier soir de nous faire une introduction sur le projet Kamas et Mazir, pour moi qui est structurant, parce que dans le projet Mycélium qu'on travaille, que j'ai présenté hier après-midi, on essaie de travailler sur la ceinture agricole et de donner du sens à pourquoi on débroussaille ou pourquoi on n'aurait plus besoin de débroussailler si on était en ceinture agricole sur les zones historiques autour des hameaux cévenols. Et le projet Kamas et Mazir, pour moi, c'est un projet qui est structurant dans lequel on va trouver un autre morceau qui est déjà plus avancé qui s'appelle Treille et Terrasse. Parce que pour moi, Treille et Terrasse, c'est un morceau de Kamas et Mazir. Alors c'est toujours pareil, quand on fait des projets, souvent on est focal sur quelque chose et puis on recule, on regarde de plus haut. Ou sinon, on regarde de très haut et on se dit, bah, au fur et à mesure, on va resserrer la focale sur un truc. C'était un peu le cas dans le week-end, quand j'ai présenté au tout début du week-end le projet d'extension des terrasses aux cofinanceurs du projet sur le vendredi matin, qui n'était pas spécialement ouvert au public, mais qui était plus un rendez-vous des institutionnels professionnels pour savoir qui finance quoi. On a attaqué le week-end en focalisant sur l'outil qu'on avait construit, qu'on va attaquer au mois de juin, qui est l'extension de ce bâtiment, qui est juste un petit morceau au service du projet plus vaste qu'on regarde de beaucoup plus haut pour essayer de construire un avenir un peu plus heureux que celui que les médias nous distillent. Donc je passe la parole, s'il est toujours d'accord, à Yannick. Mais il réfléchit. Mais après, il réfléchit à haute voix et donc ça marche toujours. Je vous laisse vous présenter quand même. À la limite, on fait d'abord une présentation. Charlie, je te passe le micro.
Merci Adrien. Charlie Lévesque, je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie, qui est une association de protection de la nature. Je la représenterai un peu plus longuement tout à l'heure, mais en deux minutes. Et moi, je m'occupe d'agroécologie dans cette association-là. Voilà. Et ravi d'être là avec vous.
Donc, Émilie Bresse, je suis directrice du syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles. Et donc, syndicat qui travaille sur une vingtaine de communes sur les vallées cévenoles, sur une démarche l'homme et la biosphère, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard.
Donc François Abou, maire d'une commune, petite commune qui s'appelle Peyrolles, au-dessus de Saint-Jean-du-Gard, Et j'essaye d'avoir une action en étant le président du site Natura 2000 du Gardon de Saint-Jean, président du CAPI, donc c'est une charte agro-pastorale. Et puis je suis aussi élu au Gardon, à l'EPTB Gardon, où on essaye de renaturer un peu cette rivière qu'on a bien fait souffrir.
Voilà, ben, moi c'est Yannick Louche, donc je suis élu municipal à Sandras, au bas de la vallée du Galaison. J'ai été longtemps maire, trop longtemps maire, je dirais même. Et je préside le syndicat de Haute-Vallée-Sévenol. Alors, je vais dire un mot quand même sur le syndicat, parce qu'il y a des gens ici qui ne le connaissent sans doute pas. C'est un syndicat intercommunal qui s'est créé, donc qui est dirigé par Émilie, et que nous avons créé, les élus de la vallée du Galaison, en 1992, après deux bonnes années d'études à la demande du parc national des Cévennes. Le parc national des Cévennes étant devenu en 1985 réserve de biosphère. La réserve de biosphère, c'est une démarche mise au point par l'UNESCO au début des années 80. Et il s'agit de désigner sur la planète entière des zones où il y a une biodiversité riche et où il y a des humains qui participent, qui sont là. Et l'idée étant de voir ce qui se passe et d'essayer que ça se passe bien, du coup, le rapport entre les humains et ce vivant dont les humains font partie aussi, et essayer de faire en sorte que les activités humaines ne portent pas atteinte, ou le moins possible, au reste du vivant. Voilà, donc c'est une démarche expérimentale, scientifique. C'est une démarche qui se fait dans une approche globale des territoires. Et c'est une démarche aussi qui se veut participative aussi. Et donc, à l'époque où le parc national est devenu réserve de biosphère, un parc national, c'est d'abord fait pour faire de la conservation. Les parcs nationaux, en général, c'est leur fonction essentielle. Et il y a des gens qui arrivent par derrière. Allez-y. Et le parc, le parc national des Cévennes, les parcs nationaux en général ne sont pas habités. La réalité du parc national des Cévennes, c'est qu'en son cœur, il y a des habitants. Donc, le parc national des Cévennes a quand même été, dès le départ, obligé de se coltiner une démarche de développement durable. C'est pour, je schématise à l'extrême, là, hein, pour pas être trop long. Donc, gérer ce problème du rapport entre l'homme qui habite là et qui a des activités et la protection des milieux. Mais pour autant, le parc, qui est très grand, hein, avec sa zone d'adhésion, n'arrivait pas à mettre en route vraiment la démarche homme et biosphère. Et donc, il a proposé, c'était en 89-90, il a proposé aux élus de la vallée du Galaison d'être la zone expérimentale de cette démarche pour le parc national. Voilà. Et donc, alors, autant vous dire que les cinq maires que nous étions à l'époque, on n'avait jamais entendu parler de Maine et biosphère, de la démarche. On ne savait pas ce qu'était la biosphère, on ne savait pas encore au moins ce qu'était la démarche MAB, Maine et biosphère. On a découvert tout ça. Et du coup, pendant on a diagnostiqué le territoire, on a fait de multiples rencontres avec les habitants. On a beaucoup appris en même temps. Et du coup, on a sans doute découvert la richesse de notre territoire qui, en tant qu'habitant, qu'on ne mesurait pas en tant qu'habitant. Voilà. Pour l'anecdote, parce que ça a été fait très sérieusement avec l'appui de scientifiques, des universitaires, etc. Il y a eu beaucoup de travail d'études, de diagnostic de faits. Je cite souvent, parce que la première étude qui nous a servi à installer ce syndicat, elle a été faite par un étudiant mexicain qui était un ingénieur forestier, un jeune ingénieur forestier, et qui faisait une spécialisation à la fac de Montpellier, et qui donc a fait une étude sur la vallée du Galaison, gestion des espaces dans la vallée du Galaison. Il nous a beaucoup appris, il a aussi lui-même beaucoup appris, et ça lui a porté chance, puisqu'il est devenu ministre de l'Environnement. Le Mexique, ce sont des régions autonomes, hein. Et donc, ils ont un gouvernement. Chaque région a un gouvernement. Et lui, il a fini par devenir ministre de l'Environnement de la région du Jalisco, qui est sur la côte ouest du Mexique. Il s'appelait Sergio Graf. Voilà. Et donc, une fois qu'on a eu fait tout ce travail, on s'est dit, ben, c'est extraordinaire. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer d'utiliser ces connaissances pour au service du territoire. Et donc on a monté de façon aussi participative, hein. On a mis en place un programme d'action sur la base de toutes ces études. Et on s'est dit, ben, il faut un outil pour gérer ça. Et on a créé l'outil le plus simple qui pouvait exister, c'est un syndicat à vocation unique, un syndicat de communes. Donc les 5 communes de la vallée du Galaison, Sandras, Soustelle, La Melouse, Saint-Paul-Lacoste et Saint-Martin-de-Boubon, donc à cheval sur Gard et Lozère, et un morceau de Saint-Germain, puisque le Galaison prend sa source à Saint-Germain-de-Calberte, et un petit morceau de Mialet, puisque l'affluent du Galaison, qui est la Salandre, prend sa source à Mialet, puisque Mialet vient sur ce bassin versant. Voilà. En fait, on a décidé ensemble de créer ce syndicat, et l'engagement, la seule compétence de ce syndicat, et c'est toujours le cas, c'était de faire vivre la démarche homme et biosphère de l'UNESCO. Donc on est le seul syndicat en France qui a cette compétence, et cette seule compétence. On vient d'en rajouter une autre, hein, qui est la défense de la forêt contre l'incendie, mais c'était pour des raisons pratiques, hein, pour avoir qu'un outil, parce qu'on avait deux outils à un moment, et voilà. Mais je vais revenir sur la question des feux de forêt aussi. Et donc, voilà, on a, depuis maintenant 33 ans, on anime cette démarche. Concilier les activités humaines sur un territoire comme ça avec la protection des milieux, ça peut paraître assez facile parce que il y a pas tant de gens que ça, il y a une nature très importante, bon, voilà, mais en fait non, c'est très, ça pose beaucoup de problèmes, et des problèmes à résoudre. Et qui se complexifie à mesure que la démarche avance, parce qu'il y a d'autres choses qui avancent aussi. Il y a des choses qui évoluent, qui se dérèglent, comme le climat, par exemple. Je ne parle pas des dérèglements sociaux, politicaux, économiques, tout ce qu'on veut, parce que là aussi, on dépend de ça aussi. Voilà. Donc, forcément, puisqu'on est quand même en zone très, très rurale, une zone où la forêt ce qu'on appelle forêt recouvre 90% voire plus du territoire. Le reste, c'est un peu d'agriculture, de polyculture. Forcément, ça nous a amené à travailler sur les questions forestières, sur les questions agricoles. Bien sûr, sur la question de l'eau, qui est aussi majeure dans tous les territoires, d'ailleurs, mais chez nous aussi, bien entendu. L'eau, les sols et la question de la biodiversité, puisque le but étant de protéger, prendre soin du vivant qui compose ce territoire en dehors de l'homme. La question, on travaille beaucoup aussi sur la question des énergies, puisque ça a un lien avec notamment la forêt, par exemple, les énergies chez nous, est assez évident. Je le répète, la démarche MAB, c'est une approche globale du territoire, une approche systémique. Donc, il a fallu aussi, et ça, on a mis plus de 20 ans pour monter une équipe qui puisse répondre aux exigences de la démarche sur ce territoire, puisqu'il faut aborder les questions, comme je le disais, agricoles, forestières, biodives, etc. Mais il faut des gens compétents aussi. Et on a fait tout ça à peu près sans un radis, quoi. C'est les 5 communes qui composent le syndicat sont 5 communes très pauvres, voilà, avec très peu de ressources. Et donc, il a fallu inventer les moyens d'avoir des ressources. On est d'ailleurs, et c'est une originalité, notre syndicat est original par cette compétence particulière, mais il est original en ce sens que c'est une collectivité locale, hein, c'est un syndicat de communes, mais qui fonctionne en partie comme un bureau d'études privé. Il faut aller chercher de l'argent, puisque les communes n'ont pas les moyens de payer grand-chose, il faut aller chercher l'argent sur les actions qu'on peut mener, donc dans le cadre maintenant d'appels à projets, puisque à peu près tout passe par des appels à projets. Voilà, donc il a fallu, et donc il faut aussi des gens compétents pour aller chercher ces moyens via les appels à projets, donc construire des projets, les défendre, les adapter, etc. Enfin voilà, c'est un travail très, très compliqué et il a fallu de nombreuses années pour arriver à monter. Alors on a travaillé dès le début, hein, mais on se focalisait sur des choses qu'on était capable de faire. Et puis c'est que depuis peu d'années qu'on arrive à travailler vraiment dans l'approche globale du territoire avec une équipe. Il y a 12 salariés au syndicat maintenant, une équipe d'ingénieurs et de techniciens. Il y a par exemple sur la partie ce qu'on appelle chez nous la partie développement durable ou l'agenda 21 ou l'agenda 2030, voilà. Donc il y a par exemple un ingénieur transition énergétique qui a fait d'ailleurs une présentation sur l'autoconsommation collective citoyenne hier. Il y a une ingénieure forestière, il y a une ingénieure agri, et il y a des techniciens, puisqu'on anime aussi, et on arrive à mêler tout ça, on anime 2 sites Natura 2000 avec des techniciens qui... Et on arrive à faire travailler ces gens ensemble et à croiser leur discipline et leur travail pour justement arriver à faire vivre cette approche systémique, voilà. Donc voilà, aujourd'hui donc on aborde toutes ces dimensions. Je le disais aussi, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la DFCI. On avait un syndicat à part, qui était un syndicat de défense de la forêt contre l'incendie, mais qui n'avait pas de personnel, qui était géré techniquement par le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles. Et on a décidé, pour des raisons de simplification, de faire reprendre la compétence défense de la forêt contre l'incendie par notre syndicat. Mais en fait, c'est bien parce que ça nous permet d'aborder la question de la DFCI dans une approche globale du territoire. Jusqu'à présent, moi je préside depuis près de 40 ans cette DFCI. On a abordé pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui à peu près, la DFCI sous l'angle de on équipe le territoire pour combattre le feu. Alors c'est très bien, il faut le faire. Donc équiper le territoire, c'est essentiellement des pistes et des points d'eau. Mais en fait, c'est largement insuffisant et on veut plutôt travailler sur la prévention. Comment rendre la forêt moins sensible au feu ? C'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est d'autant plus ça qu'il faut faire qu'aujourd'hui, la forêt s'est tellement développée, il y a une telle masse de biomasse, justement, que même avec des moyens sophistiqués, on arrive très difficilement, de plus en plus difficilement, à combattre les feux de forêt. Alors, on n'en est pas encore tout à fait au point des méga-feux qu'on peut voir aux États-Unis, en Sibérie ou je ne sais où, parce que aussi les surfaces sont moins grandes que dans ces pays. Mais pour autant, on a la même problématique. Et aujourd'hui, je m'étais dit qu'on en parlerait en regardant le paysage, puisqu'on devait être dehors. Mais bon, on est dedans. Mais vous le connaissez, le paysage. Quand vous regardez de la terrasse, vous voyez une masse, et vous ne voyez que ça, une masse d'arbres, de différents, puisqu'il y a des couleurs un peu différentes, encore heureux, je dirais. Aujourd'hui, on se pose la question. Alors, il se trouve qu'en tant que responsable et organisateur de la DFCI sur le massif. Alors le massif, il est un peu plus large que notre syndicat. Il va de Saint-Jean-du-Gard au-dessus de Malon et Elze, là-haut, c'est la plus haute commune. On est en charge de la révision du plan de massif. Donc essentiellement, voir si le réseau des pistes ou des points d'eau est bon, s'il faut le faire évoluer, etc. Mais nous, là, du coup, on se pose la question de comment faire en sorte de ne pas avoir à combattre le feu. Dans une situation pareille, avec une telle biomasse, une telle continuité en plus, il faut vraiment qu'on prenne des options qui fassent que le territoire soit moins sensible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est assis sur une bombe dans ce territoire. S'il y a un dégourdi qui décide de craquer une allumette le jour J, le jour où il y a 3 mois de canicule, où il fait 40 degrés, où il y a du vent du sud, et s'il la met le soir pour que les avions ou l'hélicoptère ne puissent pas démarrer dans les 5 minutes, toute la vallée brûle et au-delà. Et ça sera vite fait, puisque les feux ont une telle puissance. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les pompiers, qui sont très performants en plus dans notre département. Ils sont très pointus, mais pour autant, à l'impossible, nul n'est tenu. On vit sous ce risque-là. Et donc, de choses l'une, où on ne fait rien et on prend le risque. Et statistiquement, ça arrivera un jour ou l'autre. Où on agit de façon forte. Ça demande à cogiter, ça demande des moyens, certainement. sachant qu'on n'a pas que ce fléau, puisque avec le dérèglement climatique aussi, ça prend des proportions très importantes, la question de l'eau qui n'est plus distribuée de la même façon qu'avant. Alors, il y a toujours eu des problèmes d'épisodes cévenols aux équinoxes. C'est un exemple que je cite souvent. Dans les cahiers de doléances de la Révolution, toutes les communes des Cévennes, la première demande au roi, c'était « Aidez-nous, parce que à chaque pluie d'équinoxe, et notamment à l'automne, eh bien, les pluies nous embarquent et les récoltes. » Alors, c'était essentiellement les châtaignes auxquelles ils pensaient, puisque, voilà, et nous emportent les sols. Voilà. Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes sont moins réguliers, je dirais, puisqu'il y avait une certaine régularité, hein, ça se passait aux équinoxes. Aujourd'hui, il peut y avoir des épisodes cévenols n'importe quand dans l'année, à peu près. Voilà, on voit tomber aussi de la grêle en plein hiver. Enfin, voilà, on voit des choses extraordinaires. Et quand il fait des épisodes de cévenols, ça peut être très, très fort. En 2002, on a vu passer 1000 mètres cubes seconde au pont de l'abbaye. C'était le Galaison, hein, qui est une toute petite rivière. Hein, voilà. Et 1000 mètres cubes seconde, pour vous donner une idée, c'est la moitié du débit du Rhône. Voilà. Donc, et c'était le Galaison. Donc on peut imaginer les dégâts que ça peut créer, notamment dans les zones, dans le Piémont. Aussi, les sols que ça emporte, cette puissance-là. Et donc, la question se pose, alors je vais parler du feu, mais se pose la question de la gestion de l'eau aujourd'hui. Alors, du trop d'eau et du manque d'eau, parce qu'on a les deux. Nous, du coup, dans notre approche globale, bien entendu, on fait le lien entre la forêt, le risque de feu, la gestion des sols et la gestion des eaux, l'effet sur le climat, la captation de CO2, par exemple, par la forêt. Donc, à la fois, il faudrait beaucoup plus de bois, beaucoup plus d'arbres pour capter le CO2, beaucoup plus d'arbres pour tenir les sols, mais en même temps, beaucoup moins de biomasse pour que les feux soient moins puissants. On est soumis un peu à des injonctions contradictoires, là. Et c'est pas évident à régler. Je m'étais dit aussi, si on parle de, si on avait été dehors, on regarderait ce qu'il y a autour de nous. On verrait que là, il y a de ce côté, il y a du calcaire, que de l'autre, il y a du schiste, que là, il y a des chênes, qu'en face, il y a des pins maritimes, qu'au milieu, il y a des châtaigniers qui essaient de résister. Qu'en bas, on est à 200 mètres, qu'un peu plus haut, on est à 600 ou 700 mètres, qu'il y a des endroits rocailleux où il n'y a pas de sol, qu'ici, il y a un peu plus de sol, il y a peut-être des sources, d'autres endroits, il n'y a pas d'eau. Tout ça pour dire que on a des problématiques qui s'entrecroisent là, et avec des questions, des problématiques avec des contradictions, et que on n'est pas dans la bosse, qu'on a une myriade de situations, ça va jusqu'au microclimat sur un territoire comme ça. On le sait, par exemple, un paysan en Cévennes, il sait que s'il a une terrasse qui est placée à Lubac et qui a plus de sol, il pourra produire ça. Et puis s'il a une autre plantée dans les rochers qui est plus ensoleillée, il pourra produire autre chose. Je dis ça pour expliquer qu'il n'y a pas de solution unique et efficace et miracle à notre problème, à nos problématiques. Il y a un millier de réponses à tout ça, de réponses partielles qui au total feraient peut-être une réponse un peu pertinente. On est placé devant une problématique hyper complexe. Voilà, à mon sens. Moi je le ressens comme ça. Donc on peut se dire, ouais, ben alors là, si on en est là, ben tout est foutu. On ne va pas s'en sortir. Mais non, parce qu'y a quand même l'intelligence collective. Il y a la longue expérience de siècles de pratique. Moi, je crois beaucoup à ça. Et quelque chose qu'on n'utilise pas assez. On n'utilise pas assez l'histoire, pas pour faire... Pas pour dire c'était mieux avant, mais parce que au fil des siècles, ceux qui nous ont précédés ont acquis beaucoup de connaissances. Et en plus, ils ont expérimenté. Donc, ils s'appuient aussi sur l'expérimentation. Et donc, on a beaucoup à apprendre de ça. Et puis, aujourd'hui, on dispose de technologies qui nous permettent d'approcher au plus près la connaissance la connaissance intime de notre territoire par le biais de hier on parlait de cartographie, on en a même utilisé en même temps on a des satellites qui peuvent nous dire les endroits, quel bois il y a, quelle eau il y a, etc. sur le territoire. Chose qu'on n'utilise pas assez pour ce qu'on voudrait faire, d'ailleurs, à mon sens. C'est des outils qu'on utilise pour essayer de trouver du pétrole ou d'autres trucs extractibles qui permettent de faire du pognon ou pour faire les guerres. Voilà, ça, on est très bon pour utiliser ces outils. On a moins de moyens pour les utiliser pour régler les problèmes que je viens d'évoquer. Donc, si on décide de faire des choix, de mettre des moyens pour mieux appréhender notre territoire, eh bien, on doit pouvoir améliorer un certain nombre de situations. Alors, et j'en termine par là, parce que je ne veux pas non plus détailler sur le projet Camaz et Mazières, d'autant que c'est un projet qui est en cours de définition. Donc, on commence à y réfléchir au niveau du syndicat, mais ça sera aussi dans une démarche participative avec le territoire. Il fait suite, Adrien l'a dit, au projet Treille et Terrasse. En deux mots, le projet Treille et Terrasse, pour ceux qui le découvrent, c'est l'idée on est dans un territoire, alors ça rejoint la problématique posée nature domptée ou sauvage, on est dans un territoire anthropisé depuis au moins le néolithique, donc aménagé par l'homme et ô combien aménagé. On le voit moins avec toute la verdure qu'il y a aujourd'hui, mais bon, il était bâti de bas en haut, construit avec les terrasses, avec les systèmes hydrauliques, etc. Un travail très, très fin et qui recouvre l'essentiel du territoire. Et à l'évidence, tout ça est en train de disparaître, mangé par la forêt, démoli par les sangliers, à l'abandon, etc. Et donc on s'est dit, c'est peut-être, il faut peut-être réagir, c'est peut-être le dernier moment pour réagir, pour sauvegarder. Alors on ne prétend pas revenir à ce qui était il y a deux siècles ou trois, mais au moins sauvegarder une partie de ce patrimoine, mais pas pour faire joli, même si la question du paysage est importante, mais surtout pour maintenir les sols, puisque c'était fait pour ça, et maintenir l'eau, garder l'eau au maximum sur le territoire. Et la meilleure façon de garder cette eau, c'est d'avoir un sol vivant. Voilà. Donc, on s'est dit on va commencer par peut-être un petit bout et puis par essayer à prendre des mesures aussi pour bien comprendre. Et on s'est dit aussi, on est parti du principe que pour entretenir des terrasses, elles servent à l'agriculture, les terrasses aussi. Mais pour vivre de l'agriculture en Cévennes, c'est très compliqué. Donc il faut imaginer de faire sur ces terrasses des cultures rémunératrices pour que le paysan puisse en vivre et ait les moyens d'entretenir la terrasse. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est pas un pari impossible. C'est ce qui s'est passé d'une certaine façon sur le secteur du Viganais quand on a relancé. Ça a été démarré avec l'aide du parc, d'ailleurs, il y a 30 ou 35 ou 40 ans, la culture de l'oignon doux sur terrasse. Et du coup, c'est une production qui se vend bien, qui rapporte. Et du coup, les agriculteurs ont pu remettre en état leur terrasse et cultiver cet oignon doux. Alors ça nous a appris des choses aussi, mais ils ont essuyé les plâtres. Hein, c'est pas une critique que je fais à leur égard, mais les limites de la monoculture, voilà. Puisque quand il y a un problème avec une récolte, si on n'a qu'une récolte, on est mort. Et c'est ce qui s'est passé, qui a commencé à se passer, puisqu'ils ont eu des attaques de maladies il y a 2 ou 3 ans, et ils ont été bien embêtés. C'est aussi, donc il faut traiter, donc c'est pas une culture bio, ça pose un problème aussi. Et puis ça consomme de l'eau, et voilà, on n'a pas tant d'eau que ça, il ne faut pas la gaspiller, voilà. Donc on s'est dit que nous, on allait partir sur le principe de cultures différentes, et y compris, si possible, de les superposer, parce que les terrasses sont étroites et donc c'est pas très productif. Alors on s'est dit si on empile 2 ou 3 cultures, ça serait bien une culture peut-être mettant à l'ombre une autre culture, dans la mesure où il y a un tel ensoleillement l'été que les cultures traditionnelles ont des difficultés à fonctionner. D'où l'idée qu'on a imaginé de relancer la culture de la vigne en treille pour alors ce qui se faisait avant aussi hein, pour émettre d'autres cultures sous la treille et proposer, parce que quand on y est, donc on se dit essayons la totale, on va essayer de relancer des cépages patrimoniaux ou c'est pas même des cépages interdits, voilà, tout simplement parce que d'une part ils sont intéressants dans la mesure où ils sont autoprotégés des maladies qu'on connaît dans la vigne pour l'essentiel, donc ils n'ont pas besoin de traitement ces cépages. Et ils sont moins consommateurs d'eau, puisqu'en treille, le système racinaire fait que, voilà, on va chercher l'eau plus bas. Et donc, et puis, on peut faire une production originale et très typique, et donc avoir de la plus-value aussi sur cette culture-là. Et puis l'idée de, quand même, parce que ça on aime bien en Cévennes, l'idée de commercialiser des interdits, ça, c'est motivant, voilà, il faut le dire. Donc on travaille aussi avec IGP Cévennes, qui du coup vient d'étendre le zonage de l'IGP jusqu'à Saint-Enimi, hein, parce qu'ils ont bien senti aussi qu'il fallait peut-être remonter des vignes sur... sur les montagnes cévenoles. Et donc on a lancé ce premier projet en mettant en place 6 fermes tests où on réhabilite des terrasses. On en profite pour faire des chantiers formation pierre sèche pour les agriculteurs et des chantiers construction de treilles en bois, avec l'idée là de donner une valeur aux châtaigniers qui crèvent. Et là, si, voilà, il y en a beaucoup qui meurent, mais en valorisant ce bois de châtaignier en treille. Et l'idée, c'est de planter donc des vignes, ce qui est en cours actuellement, sur ces treilles, et de mettre dessous d'autres plants, hein, ça peut être du maraîchage ou des fruits rouges ou d'autres choses, et d'en planter sous la treille et à côté, et de vérifier ce qui se passe en termes de qualité de la pousse de ces plants, en termes agronomie, température, etc. Donc, en installant des outils de mesure sur plusieurs années pour voir ce qui se passait. Alors ça, c'est un travail, une expérimentation, hein, grandeur nature, qu'on fait sur 6 communes du territoire. Alors, ce projet est financé sur 2 ans pour le mettre en place. Il va finir cette année, en fin d'année, mais on continuera la surveillance et les mesures pendant au moins 6 ans après. Et on s'est dit, pour continuer, il faut continuer, ne serait-ce déjà nous, que pour garder notre chargé de mission agriculture, il faut qu'on aille chercher des moyens. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas, même si on n'a pas les résultats, développer, aller au-delà du projet Treille et Terrasse en ouvrant géographiquement l'expérimentation. Alors d'où l'appellation Cammas et Mazière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le mot Cammas est un mot occitan qui désigne la partie agricole qu'il y a autour des Mas en Cévennes, des hameaux, des villages. En général, l'habitat était au milieu de la zone qui était cultivable, qui était la plus propice à l'activité agricole. Et dans les anciens cadastres, les compois des siècles 15e, 16e siècle, c'était désigné par le mot campmas, C-A-M-P-A-M-A-S. Et les mazières, c'était une partie du campmas qui était l'endroit où on mettait les fruitiers, notamment le châtaignier, mais ça pouvait être aussi des pommiers, sur des terres riches, parce qu'on mettait aussi le châtaignier sur des terres moins riche, mais la mazière désignait la zone la plus fertile où on installait des arbres fruitiers, notamment le châtaignier. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'essayer de voir si on ne pouvait pas remobiliser ces anciennes zones agricoles, parce qu'on sait, on n'a pas besoin de faire d'études là. Ça a été étudié pendant des siècles. Hein. On sait que c'est là qu'il faut installer l'activité agricole, puisque c'est là où il y a les sols, c'est là où il y a l'eau en général aussi, plus ou moins, mais c'est là que ça se trouve. Et puis, c'est intéressant parce que dans la problématique DFCI, défense de la forêt contre l'incendie, ou DECI, défense de l'habitat contre l'incendie, la meilleure façon... C'est d'enlever de la biomasse qui est proche justement des zones habitées. Donc à l'époque on parlait de coupure verte et puis on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que il y avait pas d'acteurs aussi sur le territoire pour les faire. C'était pas idiot en ce sens que voilà, on pouvait effectivement faire des coupures pour ralentir le feu avec des feuillus ou en enlevant des arbres, mais il n'y avait personne pour le faire. Alors que là, autour des habitats, il y a théoriquement des propriétaires, donc il y a des acteurs potentiels pour faire le travail. Et donc, on se dit, tout en relançant de l'activité agricole, on peut éloigner le risque incendie, y compris en remobilisant, c'est ce qu'on appelle les interfaces entre les zones habitées et la forêt, réinvestir ces zones-là Alors, avec le souci aussi de pas tout raser, puisqu'on sait que l'arbre est utile pour la gestion de l'eau, au vert, au bleu, et pour la gestion des sols, pour le stockage du carbone, mais les fruitiers sont des arbres aussi. Donc, dans ces zones-là, essentiellement, travailler avec le fruitier. Les zones ouvertes, je vais en terminer par là. Ça aussi, je dis beaucoup de choses, mais c'est ce qu'amène l'approche systémique. C'est que quand on veut tout considérer, et je crois qu'il faut tout considérer, c'est compliqué parce que c'est tout vu. Ils viennent toujours, on tire des fils et ils viennent toujours des problématiques. Il y a la question de la biodiversité. Et en fait, on fait des inventaires via Natura 2000. On ne suit pas tout, mais on suit un certain nombre de choses. Et on se rend compte que quand on a un paysage fermé comme on l'a aujourd'hui, ça favorise pas la richesse de la biodiversité. Alors, ça favorise une part de la biodiversité, mais il y a une part de biodiversité qui est coincée parce qu'elle a besoin de zones plus ouvertes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait l'opération papillon azuré du Serpollet, réouverture de milieu pour que l'azuré du Serpollet puisse continuer à vivre. Et du coup, on a favorisé un projet agricole, etc. Donc, on s'est dit... ces CAMMAS sont des milieux semi-ouverts. Donc, on favorise l'enrichissement de la biodiversité. Donc, vous voyez, il y a avec des sols vivants, on est en capacité de mieux capter l'eau qui nous tombe sur la tête en masse. On traite la question de l'eau, des microclimats, parce que voilà, si on a des feuillus, si ça évapotranspire bien, etc., on a plus de fraîcheur. C'est pas aussi simple que ça, hein. C'est plus compliqué parce que dans certains cas, on plante des arbres pour avoir plus de fraîcheur, et en fait, en plantant des arbres, on pompe le peu d'eau qu'il y a, et l'eau, elle est toujours, c'est toujours évapotranspiré, mais ça peut partir ailleurs aussi, suivant les courants d'air, ça retombe pas chez vous. Donc c'est complexe là aussi.
Je vais compléter, mais peut-être plus sur l'aspect action du syndicat en lien avec la biodiversité et la complexité, mais à la fois qui n'est pas compliquée pour moi. Je ne sais pas si vous faites la nuance, mais en tout cas pour moi c'est important de dire que évidemment on est dans un monde de complexe, que la biodiversité c'est une question d'interaction et qu'elles sont multiples, et plus on creuse et plus on découvre des interactions. Et c'est cette multitude d'interactions qui est très intéressante dans le métier que je peux exercer au syndicat, parce qu'en fait, c'est un monde infini. Et donc, c'est d'une richesse absolue. À la fois, c'est complexe, parce que, évidemment, notre pensée nous oblige presque de façon un peu automatique à essayer d'avoir une pensée un peu simple, alors qu'on est dans des systèmes toujours assez complexes. Et pas que dans la biodiversité, dans tout ce qui est vivant, pas la biodiversité au sens écologie, mais dans le vivant et dans les relations humaines aussi. Voilà, tout est très interconnecté. Et donc, a priori, souvent, on associe complexité à complication, mais c'est pas si évident que ça. En tout cas, on peut en témoigner au syndicat. Évidemment, c'est des processus très longs où on a besoin de prendre le temps. C'est des sujets qu'on a évoqués, qui ont été évoqués dans d'autres tables rondes. Et donc, le syndicat, ce qu'a pu relater Yannick, là, en quelques minutes, c'est une action qui s'inscrit sur un temps long. Et évidemment que je pourrais vous faire une présentation de toutes les actions du syndicat depuis 30 ans. Je vous les ferai en une heure de temps. On sortirait là en disant « Ah oui, c'est génial ». Mais en fait, il a fallu 30 ans. Et ce temps, on a pu difficilement le rendre plus court. Donc je crois qu'il faut aussi tenir compte de ça, c'est-à-dire qu'on travaille, et la difficulté, je pense, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que le temps passe très vite, en tout cas les changements s'opèrent de plus en plus vite. Or, on est dans des systèmes longs. Et quand on travaille avec la nature, c'est des systèmes très, très longs et qui demandent, du coup, beaucoup de temps. Et donc, du temps qu'on n'a pas. Bon, bref, on ne s'en sort pas. Ceci dit, on a quand même au syndicat un exemple que Yannick a cité, c'est l'exemple de l'Azur et du Cerf Polaire. Et donc, pour revenir au sujet de la nature domptée ou sauvage, en fait... Ici, en Cévennes, mais dans beaucoup de territoires, certainement, mais je peux parler au moins de ce territoire sur lequel je travaille depuis des années, cette nature, elle n'est pas si sauvage que ça. Et c'est des paysages, Yannick l'a dit en introduction, qui ont été domptés depuis très longtemps. Et déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par sauvage et dompté. La forêt qu'on a, certes, ce sont des arbres. Pour autant, en fait, ce sont quand même essentiellement des vieux vergers de châtaigniers. Si ce n'était pas des vergers, c'était des surfaces souvent pâturées par des animaux domestiques. Et donc, on est sur une nature quand même relativement domptée par l'homme qu'on a progressivement, par l'histoire, abandonnée. Alors, l'abandon en soi, c'est pas un problème, hein, parce que de trop dompter aussi, Yannick le disait, on peut regarder le passé, mais il faut pas non plus s'en faire une image d'épinal. Il y a certainement des choses qui ont été faites de surexploitation, en tout cas de la nature, par nécessité. Et donc, ce qui s'est fait par le passé, cette surexploitation, ce surpâturage certainement, a eu des effets sur la biodiversité. L'Azuré du Cerf Polaire, pour revenir à cette espèce, c'est une espèce qu'on a découvert sur Saint-Paul-Lacoste en 2011, je crois, à l'occasion d'inventaires qu'on avait pu conduire sur les papillons. Parce qu'on trouvait que les papillons étaient une bonne entrée pour parler au grand public, à tous. Ça fait partie des choses qu'on voit chacun dans notre jardin ou sur notre balcon. Et donc, c'était une bonne façon d'entrer en contact et de pouvoir parler de la biodiversité de chez soi, du quotidien. Et on découvre ce papillon au hasard d'un stage, parce qu'au-delà des inventaires vraiment très formels, on faisait des stages pour tout un citoyen, voilà, une personne de la vallée du Galaison. Et on est tombé sur ce papillon. Et alors je ne sais plus où c'était exactement, le tueur ou... Je crois que c'est... Non, la première découverte, c'est au tueur. Et puis, parce qu'on l'a trouvé au tueur, on s'est dit, il faut qu'on cherche tout autour. Et sur ce secteur de la commune de Saint-Paul-Lacoste, on a la chance d'avoir des milieux quand même relativement ouverts par rapport au reste de la vallée du Galaison, pour ceux qui connaissent le reste de la vallée du Galaison. Et donc, ce papillon, on s'est dit, bon, on va le chercher. Donc, évidemment, on en a trouvé ailleurs, donc jusqu'à Bruguerolles. Et c'est à Bruguerolles, en effet, qu'on a conduit une opération où on s'est dit, préserver le papillon pour préserver le papillon, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas très durable parce qu'en fait, OK, on peut investir le syndicat, la collectivité, les pouvoirs publics par des subventions. On peut aller financer la réouverture du milieu. Mais en fait, en soi... Ça n'a de sens que si derrière, on a un agriculteur, un paysan pour venir entretenir ces milieux-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a sollicité des propriétaires qui ont bien voulu jouer le jeu. Hein. Donc, au départ, on est parti avec un ou deux propriétaires sur un hectare. Donc, c'était très limité hein, dans l'espace pour arriver aujourd'hui à une trentaine d'hectares aujourd'hui contractualisés et donc qui sont aujourd'hui mis à disposition d'un agriculteur avec qui on essaie de gérer au mieux le pâturage. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, cette nature, ce papillon, l'Azuré du Cerf Polaire, qui au demeurant est une espèce, on va dire, sauvage, voilà, en fait, elle est inféodée, elle est... Comment je pourrais dire ça pas une fois, oui. Elle dépend de milieux totalement modifiés par l'homme, par des milieux semi-ouverts, c'est-à-dire entre la prairie, vraiment, c'est pas la pelouse rase, mais c'est pas non plus la broussaille avec les ronces. Donc, on est un milieu un peu intermédiaire. Et donc, on a vraiment suscité, ce que disait Yannick quand il parlait de mosaïque, je sais pas si c'était le mot, mais de la diversité de paysages et de milieux. C'est bien ce papillon-là, si je prends que cet exemple, nous démontre qu'en fait, finalement, le lien est très étroit entre la biodiversité sauvage et cette nature domptée. Parce que c'est bien parce qu'on a des milieux ouverts entretenus par le pâturage et ou la fauche, parce que les deux pratiques se font et sont nécessaires, qu'on peut avoir ce type de biodiversité dans nos milieux. Donc voilà, pour illustrer un peu mes propos, mais je préfère qu'on fasse un tour et puis on revient sur les questions, voilà. Voilà, petit exemple. Je te transmets, ou François ? François ? Allez.
Voilà, là, on a parlé de l'Azuré du Cerf Polaire. On peut en parler parce que c'est quand même un papillon remarquable. Il va pondre sur le Cerf Polaire, mais s'il n'y a pas les fourmis à côté qui vont se charger des œufs de ce papillon, c'est fini. Donc, c'est vraiment ce papillon-là lui-même a besoin d'une biodiversité avec ses fourmis qui vont élever ses œufs pour pouvoir que ce papillon se reproduise et qu'il y en ait. Donc, pour parler aussi un petit peu de tout ce dont tu as parlé en Cévennes, c'est vrai que l'eau est un élément qui a toujours été en Cévennes tout spécialement, je dirais, géologiquement, nous sommes sur du schiste. Plus particulièrement sur les schistes, les torrents qu'on appelle ici Vala, descendent de la montagne et ce sont des ouèdes en fait. Quand il pleut, il y a de l'eau et quand il n'y a plus d'eau, ça se sèche. Alors pour ce faire, l'homme, il a construit toute une série de murs dans ces valates et par derrière, c'est des murs en pierre sèche, toujours la pierre sèche pour la terrasse, les terrasses elles-mêmes avec l'eau qui retient, l'eau retenue par la terre et en même temps, ces murs qui retiennent des sédiments, qui ont un rôle d'éponge et qui créent une ressource. Ils l'ont fait pendant longtemps, tout ça, hélas, comme il n'y a plus assez de paysans, c'est plus entretenu. Mais il faut faire des expériences, comme tu l'as dit, et remettre en place, essayer de remettre en place des agriculteurs pour pouvoir entretenir ce système. Où justement, plus que jamais, puisque avec le dérèglement climatique, ça pose de gros problèmes. Mais je pars un peu loin de la biodiversité, mais tout ça, ça crée quand même de la biodiversité. Ces gourgues créent des milieux humides. Ces milieux humides, il y a toute une... Il y a les batraciens, il y a des plantes d'eau, il y a toutes sortes de choses qui se passaient et qui ne se passent que de moins en moins. Parce que, justement, comme on ne l'entretient plus, des arbres y poussent, les ronces y poussent, l'évapotranspiration et le gain que l'on pourrait avoir s'il n'y a pas d'entretien, il est quasi nul, hélas. Quoi parler d'autre ? Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur les renaturations des rivières qui ont été bien, bien, bien abîmées, sur les gardons en particulier. Et il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail quand même qui est fait. Donc, il ne faut pas désespérer. Je passe la parole.
Merci. Hop. Donc, moi, je vous avais dit que je vous dirais deux mots. Je vais faire plus court qu'Yannick. Non, juste vous dire, j'ai la chance de travailler dans une asso de protection de la nature et donc le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Sa particularité, c'est qu'on gère un réseau de sites où il y a des enjeux écologiques particuliers. On gère 36 000 hectares en Occitanie, je sais pas combien on en gère dans le Gard. On n'est pas propriétaire de 36 000 hectares, mais bien souvent des collectivités locales nous délèguent la gestion écologique de sites et on a des compétences assez similaires à... propre, mais aussi assez similaire à ce que vous avez pu décrire. Et moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on accueille un maximum d'agriculteurs et d'agricultrices sur nos sites, parce qu'il y a une interdépendance totale. On n'enrayera pas... l'agriculture ne pourra plus se pratiquer ou ça va vraiment être très compliqué si le vivant continue de s'effondrer, parce qu'elle en dépend indispensablement. Voilà, nous, nos sociétés humaines dépendent indispensablement d'un vivant en bonne santé. Ça n'a échappé à personne ici, je prêche une armée de convertis. Et réciproquement, on n'enrayera pas l'effondrement du vivant sans les paysans et les paysannes. Ils ne m'ont pas attendu pour le savoir, mais mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on arrive à concilier tout ça. On avait mis « Réconcilier agriculture et biodiversité », c'était un titre un peu accrocheur, mais en vérité, on vous a donné plein d'exemples où on le concilie déjà, où ils l'ont toujours concilié. Et je voulais juste peut-être incarner un peu plus là, tout ce qui a déjà été dit par d'autres exemples. Je crois que c'est Yannick qui parlait de la complexité des problèmes qu'on doit, ou des données, des contraintes avec lesquelles on doit composer quand on veut faire du bon boulot sur un territoire et appréhender les choses de façon holistique. En fait, la complexité, quand on a de la biodiversité et le bon fonctionnement écologique d'un paysage, d'un écosystème ou d'un territoire, d'un ensemble de villages ou d'un village, dépend de la complexité de ce paysage. Le terme de complexité, on le mobilise dans les sciences écologiques et aujourd'hui, on a de la chance, c'est défini. Il y a une publication scientifique qui a été faite et donc vous pouvez apprécier, lire un paysage et apprécier sa complexité vous-même. Elle repose sur trois jambes. La première, c'est l'hétérogénéité ou la diversité des milieux naturels et cultivés qui composent le paysage. Voilà. Plus il y a de diversité de milieux, et à l'image de ce qu'on vous a dit sur la biodiversité forestière et la biodiversité des milieux prairiaux, pas boisés, où nous les écolos on dit ouverts, c'est pas les mêmes espèces qui vont vivre là. Elles sont un petit peu exigeantes, les espèces sauvages, et elles ont le droit. Nous aussi, on est exigeants. Donc, première jambe, c'est l'hétérogénéité, la diversité des milieux qu'on y trouve. La deuxième jambe, c'est la composition, c'est la part occupée par ces différents milieux. Si j'ai 99 milieux différents, mais que j'ai 99% de mon territoire qui est occupé par le même milieu, vous comprenez bien que ça ne va pas offrir autant de possibilités à tout un tas de fonctions écologiques et d'espèces pour se développer. Donc deuxième jambe, la composition. Et enfin, la troisième jambe, c'est la configuration de mon paysage, c'est comment tout ça est assemblé dans l'espace. Et vous l'avez abordé, il me semble, et ça parle à tout le monde. Les espèces ont besoin de circuler pour vivre. Alors une fourmi, elle va circuler sur une aire un peu moins grande qu'un grand cervidé, par exemple, ou qu'un loup, hein, qui peut tracer un loup solitaire des milliers de kilomètres. Elles ont besoin de se déplacer pour manger, elles ont besoin de se déplacer pour se reproduire spontanément. Elles vont se brasser génétiquement, les populations animales et végétales transportées par le vent pour éviter de dégénérer. Elles ont besoin de lieux de refuge aussi, où elles vont pouvoir s'abriter de leurs prédateurs ou tout simplement être au calme. Tout comme nous, elles ont besoin de calme pour dormir, se reproduire, couver leur nichée. Je voulais juste vous le partager parce que, si on fait si je fais le lien maintenant avec l'agriculture, ce qui est mon boulot, il y a une interdépendance. Il me semble que sur ce territoire, moi je bosse sur des territoires où on a, bien sûr, j'ai des collègues qui bossent sur le redéploiement pastoral et il y a énormément de choses à faire en fait. Comme on vous l'a démontré là, j'espère que c'est clair. On a dans des territoires qui sont très 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 majoritairement forestiers, le propos n'est pas de dire il faut raser toute la forêt. Mais vu ce que je viens de vous expliquer, ce qu'on vous a expliqué, ramener des petits patchs de milieux un peu plus prairiaux ouverts, ça va permettre à d'autres espèces qui peuplaient historiquement ces milieux, même avant l'arrivée des humains. Avant, vous aviez des grands troupeaux d'herbivores sauvages qui étaient capables de déboiser. Ou de maintenir déboiser des espaces par le pâturage. Puis ils ont disparu avec l'arrivée des humains. Ils ont été remplacés par une herbivorie domestique qui fait partie de la biodiversité au passage. Hein. La biodiversité, ce n'est pas que le sauvage. Il y a aussi une biodiversité élevée et cultivée qui s'érode malheureusement. Les vieilles races régionales, vous devez en connaître là, plein de races de moutons, de chèvres notamment, qui peuplaient les régions, ont réduit en effectif. Et c'est la même chose malheureusement pour toutes les espèces végétales qui ont été sélectionnées au fil des siècles par les paysans. Et on en dépend aussi. Il y a une grande diversité génétique et une grande résilience, une grande robustesse, pour reprendre le mot à la mode dans le coin, de ces espèces-là. Mais j'en reviens à mes moutons et mes chèvres. J'en étais où ? J'ai perdu le fil. Tac. Oui. Ici, on a des milieux très très naturels, voilà, où on essaye de refaire de la place à l'agriculture en cherchant des façons que ce soit une agriculture soutenable, vivable, où on puisse s'en sortir un revenu digne, parce qu'on a besoin de bouffer dans le coin, on a besoin de maintenir ou de redonner plus de vie à un territoire rural. Et donc, on cherche à le faire, d'après ce que j'ai compris, sans endommager, au contraire, en enrichissant le bon fonctionnement écologique de ce territoire et puis avec des grosses contraintes climatiques. Dans d'autres territoires, moi, je vis en Pic-Saint-Loup, j'ai compris que je n'étais pas le seul. Donc, c'est un peu vous savez à peu près où c'est, au pied du Pic-Saint-Loup. Donc, on est dans l'Hérault, on va dire en piémont du Pic-Saint-Loup et pas si loin que ça des Cévennes, mais on est plus sur la plaine. Le Pic-Saint-Loup, ça va encore, on va dire, mais si on se déplace, on est dans des plaines, notamment sur le littoral, qu'il soit Gardois ou Héraultais, c'est beaucoup plus intense. Et là, on a besoin de ramener de la naturalité. Là, vous n'en manquez pas ici. Là-bas, on a besoin d'en ramener et malgré tout, de permettre l'agriculture, puisqu'on a besoin de produire de la bouffe, un peu de pinard aussi au passage. mais on a besoin de produire de la bouffe. Et mon propos, pour être concret, c'est de dire que c'est toujours possible, en fait, de concilier. C'est indispensable, c'est non seulement indispensable, mais c'est toujours aussi possible de concilier agriculture et biodiversité. Il y a un débat scientifique qui devrait être largement dépassé entre le partage de l'espace ou la conservation de certaines zones. En fait, il faut faire les deux. Il faut qu'il y ait des zones de conservation de la nature très fortes, parce qu'il y a des écosystèmes et des espèces qui sont très, très, très sensibles et qui vont avoir besoin d'être très peu dérangées par les activités humaines. Et le parc des Cévennes en est un exemple avec la zone cœur de parc. Alors, il n'est peut-être pas parfait. Moi, je ne vis pas dans le coin, mais voilà. On y arrive, en fait. Et puis, il y a d'autres endroits où on partage l'espace, où les activités humaines sont beaucoup plus prégnantes et on en a besoin, elles sont légitimes. Néanmoins, on a besoin de maintenir un minimum, ou voire même un maximum, de fonctions écologiques qui s'opèrent là-bas. Donc, des continuités pour les espèces sauvages, par exemple, mais aussi le cycle de l'eau, des paysages qui soient perméables, qui infiltrent l'eau, qui régulent le climat. On est dans une région de France et du monde qui est bien placée. Hein, ici, le changement climatique nous impacte de façon beaucoup plus rapide que dans d'autres coins du monde et de France. Donc, on a besoin de rafraîchir. Et tout ça, l'agriculture en dépend indispensablement. Pour vous donner un exemple, moi, j'accompagne notamment une ferme maraîchère qui est située sur la commune d'Agde, qui est dans une plaine très intense agricolement parlant, mortifère d'un point de vue écologique. Il n'y a plus un arbre, hein, on voit très très loin à l'horizon. On n'est pas dans la Beauce, mais parce qu'il y a de la vigne et des oliveraies qui sont vendangées à la machine. Mais il y a beaucoup moins de naturalité que par ici. Et je travaille avec un maraîcher qui est en maraîchage bio diversifié. Et lui, il a des grosses problématiques liées. Donc, on a fait des diagnostics de biodiversité chez lui, mais on fait de l'agroécologie. Donc, on s'intéresse aussi à ses contraintes productives et on voit comment on peut concilier tout ça, maximiser la capacité d'accueil de la biodiversité, maximiser les fonctions écologiques, tout en permettant, voire améliorant sa production agricole. Et lui, il a des gros soucis liés au vent, des vents asséchants, des vents destructeurs. Il est soumis au Mistral, à la Tramontane, mais aussi au vent marin. Il a des tempêtes qui lui ont fracassé ses serres plusieurs fois. Donc, on a implanté des brise-vents chez lui. En fait, pour faire simple, il y a deux grandes typologies de choses qu'on peut faire sur une ferme. Je vais simplifier à mort. On peut agir sur la configuration du paysage, sur l'aménagement du paysage plutôt. Voilà. Donc, on va foutre des haies, on va maintenir des murets en pierre sèche ou recréer des murets en pierre sèche ou des éléments semi-naturels. Voilà, on peut recréer des choses ou maintenir des choses. Et puis ensuite, on peut agir sur les pratiques agricoles, sur comment on va, agricole ou autre, enfin, comment on va gérer l'espace. Et là, concrètement, chez lui, on a reconnecté des petits morceaux de haies qu'il y avait, on a replanté des haies, on en discutait tout à l'heure, on accompagne la nature, on lui donne un petit coup de pouce pour qu'elle régénère spontanément des haies. Et puis lui, il a plein de tournières autour de ses parcelles maraîchères et il va juste les gérer différemment. Il les girobroyait tous les mois à partir du mois d'avril, comme pour faire propre et parce qu'il en avait besoin pour circuler. On en a discuté avec lui, il n'a pas nécessairement besoin que l'herbe soit rase en fait pour rouler avec son tracteur ou sa camionnette. Et en connaissance du cycle de vie des espèces d'insectes notamment et de piaf qui les mangent, etc., ou du cycle de vie de la flore qui pousse sur ses tournières et qui est très intéressante pour tout un tas d'espèces et aussi pour réguler tout un tas de populations de ravageurs qu'il a sur ses parcelles maraîchères. Eh ben, on a convenu qu'après le 1er avril, il ne les girobroie plus et il leur fout la paix jusqu'au mois d'août. Voilà. Et c'est très simple et ça ne lui coûte pas grand-chose. Au contraire, il va y passer moins souvent. Et donc, voilà, je voulais juste, peut-être que vous savez tous déjà ça, mais vous dire qu'il y a des choses peu coûteuses, assez simples, mais qui ont un gros impact et qui permettent d'offrir beaucoup plus d'espace à la biodive dans les territoires. Je m'en arrête là. Et il y a peut-être des questions dans la salle ou des compléments ?
Il y a un micro. Tac.
Oui, je me présente, Joël, je viens de Mialet. J'y habite depuis 17 ans. Je ne suis pas originaire d'ici, mais après 17 ans, j'ai commencé à découvrir un certain nombre de choses, d'autant que j'ai été conseiller municipal pendant un mandat. Et là, on arrive vers l'élection municipale, donc des questions qui ne se posent pas entre deux élections recommence à se poser. Et Moi, j'entends tout ce travail qui a été fait sur la vallée du Galaison. Je connaissais un peu comme ça, parce que j'y ai même siégé une fois, en tant que conseiller municipal de Mialet. On a, nous, dans notre coin là-bas, des campings monstres. Énormes. Je crois que maintenant, le camping de Planche, c'est celui qui est le plus grand du coin, même plus grand que ceux d'Anduze. Ils accueillent 3 500 personnes un mois et demi par an. Entre-temps, pour les besoins des activités de ces touristes, on va curer le gardon, etc. On sait ce que ça a donné sur Anduze, là-bas. Hein. C'est plus un gardon, hein, c'est plutôt un égout, maintenant. Hein. Sur Mialet, on a encore une rivière qui est relativement préservée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc je m'étonne un peu quand même. Enfin, ce n'est pas que je m'étonne, c'est que je me questionne sur à la fois la richesse de ce que vous avez exposé, de ce que vous avez fait depuis 30 ans dans Vallée du Galaison, et l'incapacité du pays, puisque c'est le pays qui gère le tourisme, à prendre acte de l'altération énorme des milieux naturels par cette forme de tourisme qu'on a assigné à notre région, puisqu'on est le cœur touristique de l'agglo ou du pays, soi-disant, et sans faire le lien entre ces démarches, quoi. Alors, je ne sais pas dans la complexité, mais là, il y a quand même quelque chose qui relève plutôt du simplisme. C'est-à-dire que d'un côté, on reconnaît qu'on a peu de temps, on reconnaît que les milieux changent très vite liés au réchauffement climatique, aux événements qui sont de plus en plus critiques, incontrôlables, etc. Et de l'autre côté, on a des politiques publiques mises en œuvre par les mêmes qui supervisent, financent et prennent des décisions par rapport à vos syndicats et par rapport à vos actions, qui sont, pour moi, qui relèvent de, je sais pas, quelque chose de l'incohérence. Alors, je sais pas si c'est une incohérence robuste, mais en tout cas, c'est très incohérent.
J'ai juste un petit mot. Par exemple, on a essayé de lutter dans les gorges du Souci contre le canyoning. Dans la mesure où l'été, comme tu le dis, il y a 450 personnes qui, sur un kilomètre et demi, vont patauger sur 1,50 m de large. Ce qui est complètement aberrant, comme tu le dis. On a tout essayé. Le maire a pris un arrêté. Le préfet l'a cassé. Ici, le tourisme est sacro-saint. On ne peut rien faire. Plus il est développé, plus le préfet va appuyer sur le bouton vert. Hélas.
Alors, je vais peut-être un peu tempérer. Je suis payé par personne pour ça. Moi, je participe au titre du syndicat aux commissions SCOT, schéma de cohérence territoriale. Donc, c'est le PSC. C'est une organisation du territoire au-dessus des plans locaux d'urbanisme hein, qui traite là de l'organisation sur le pays Cévennes qui est composé de des 70 communes de l'agglo d'Alès, ou 12, et de la vingtaine de communes du pays 16 Cévennes. Et j'ai été un peu plutôt favorablement surpris, puisqu'on est en train de réviser ce SCOT aujourd'hui. Donc j'ai participé pour la première fois à ces ateliers. Alors, il n'y a pas tous les maires, enfin, toutes les communes forcément représentées en ces réunions. Il y en a qui ne sont pas intéressés. Mais ceux qui viennent, la plupart ont essayé de tempérer le tourisme. Voilà. Ils ont exprimé ce souci, y compris même. Dans certains cas, le développement de la population. Parce qu'il y a une espèce... Alors ça, c'est un peu la maladie des élus locaux. Hein. Plus leur population grandit, et plus ils sont fiers. Alors, c'est vrai que c'est important de pas en perdre déjà, voire d'en gagner un peu, parce que les dotations sont liées au nombre de populations. Mais pour autant, faut-il tout grossir grossir sans arrêt. Voilà. Bon, la question vaut d'être posée. Et là, j'ai entendu, notamment on était essentiellement des élus ruraux dans ces ateliers, la plupart exprimaient le souci. Alors, il y en a, c'était connoté autrement aussi. Il y a de tout, là. On ne veut pas, forcément, parce qu'on assimile le nouveau à l'étranger, pas d'étranger chez nous. Il y avait un peu de ça aussi. Mais il y a quand même le questionnement chez ces élus de se dire, faut-il toujours grossir? Voilà, faut-il chercher toujours à grossir? Alors ça se pose pour la population, permanente, et ça se pose aussi pour le tourisme. Alors après, il y a des zones qui sont éminemment touristiques, historiquement, chez nous, quelques-unes. Et effectivement, c'est là où il y a les grosses installations. Et l'argent, appelant l'argent, on veut toujours grossir. Et je crois que c'est assez commun, spécifique. Vous savez, le pont de Montvert vit à des ressources aussi grâce au tourisme. Mais ils en sont à un point où, ça y est, ils en ont ras-le-bol. Parce qu'ils arrivent, ça bloque la vie du village, le nombre de gens qui allaient. Et ça devient un peu la même chose, par exemple, à Anduze. Voilà. Donc j'entends ces élus-là, et c'est assez nouveau quand même, s'exprimer sur ce phénomène de saturation. Alors, sans parler des questions d'atteinte à la biodiversité, mais saturation pour la vie du quotidien, pour les gens qui habitent ces territoires. Alors voilà, moi, j'ai entendu ça dans les derniers ateliers, ça date d'il y a quelques semaines, quelques mois. Je me dis, bon, il y a peut-être une prise de conscience.
Excuse-moi Yannick, mais juste hein, parce que je ne sais pas si on s'en rend compte, il y a une différence entre le tourisme façon Anduze, où il y a vraiment des retombées chez des commerçants, chez des gens. Les campings, comme le camping à Mialet, il y a zéro retombée pour Mialet. Hein. La taxe, ça va au pays. Et les gens, une fois qu'ils sont dans le camping, ils ne consomment que dans le camping. On ne les voit pas, nous. Hein. On voit que les voitures qui passent. Hein. C'est tout. Une fois qu'ils sont dans le camping, tout l'argent est capté par un opérateur économique qui paye ses impôts au pays, hein, puisque la taxe locale, elle va au pays. Et pour la commune, il y a vraiment que des nuisances. Et avoir une empreinte comme ça pendant un mois et demi sur un paysage qui est quand même très fragile, c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, je suis bien sûr que le tourisme, ça m'intéresse, mais pas cette forme de tourisme.
François.
La grosse problématique, c'est fait depuis un bon moment que je suis sur ce territoire. On parle de tourisme vert, de tourisme vert, de tourisme vert. Sur le SCOT, on a fait un SCOT, on n'est pas sur le même territoire. On a fait un petit SCOT, là, deux communautés de communes, le Pays Viganais et Causses-et-Gouales-Cévennes. Mais ça n'empêche rien. Mais ça n'empêche rien. Ça ne limite rien. Aujourd'hui, hélas, on peut bien voir que pour se loger, c'est très difficile. Le Airbnb est là et vraiment est prégnant. Tous les propriétaires préfèrent louer un mois par an et s'en foutent plein les poches plutôt que de louer à l'année. C'est vraiment des problématiques énormes. Mais ça, on en fait fi. Ce qui est important, c'est de faire de l'argent. Excuse-moi Yannick, mais même sur notre SCOT où tu peux lire sur toute la partie tourisme, tourisme vert, tourisme vert, tourisme vert.
Ici, pardon, là.
On parle. Le tourisme, c'est peut-être aussi. Ça peut peut-être être éduqué, enfin, sensibilisé, en tant qu'une partie. Non, mais je voulais témoigner juste, puisqu'on a parlé du Pic Saint-Loup, je fais un petit retour. C'est que autour du Pic Saint-Loup, il y a beaucoup de falaises avec des voies d'escalade. Il y avait beaucoup de Montpelliérains qui venaient faire de la varappe. Et on s'est aperçu qu'il dérangeait en fait beaucoup de chauves-souris et d'autres espèces certainement aussi. Et les chauves-souris ne pouvaient plus nicher dans ces falaises, voilà. Et donc on a demandé, alors j'ai dit on, je ne sais pas en détail précisément, mais il a été demandé à ces sportifs du dimanche, j'allais dire, d'enlever certaines voies pour ne pas déranger. Donc ils ont quand même gardé quelques voies d'escalade. Voilà, donc du coup, voilà, il y a vraiment eu une... Je crois que c'est la communauté de communes du Pic-Saint-Loup, je pense. Voilà, qui bon, c'est un exemple. C'est possible, parce qu'à Montpellier, il y a vraiment beaucoup de monde au Pic-Saint-Loup. Donc, bon, et on voit que les sportifs, en l'occurrence, en tout cas, les varapeurs, là, ont pris conscience, sont eux-mêmes allés enlever leur... voilà, je trouvais l'image assez positive, voilà. Ceux qui détruisent peuvent changer d'avis et après comprendre que c'est pas dans leur intérêt. Alors les touristes de Mialet, je connais moins, moi j'apprécie.
C'est 3000 personnes.
Oui, je vois bien les toboggans, oui, mais de loin.
C'est un lotissement en fait. En fait, c'est un lotissement pendant un mois et demi. D'ailleurs, juridiquement, un camping maintenant c'est géré comme un lotissement. Donc c'est un lotissement avec une problématique d'assainissement, une problématique énorme. Et 3000 personnes dans un village où il y a à peu près 300 à 400 personnes qui vivent toute l'année, qui est très étendu, qui doit gérer toutes ces infrastructures avec très peu d'argent, c'est la teinte écologique au milieu par rapport à ce que j'entends, hein, c'est énorme. Et alors, en termes de biodiversité, parce que on parle de la biodiversité, de la flore, de la faune, mais il y a aussi la biodiversité culturelle, humaine, etc. On peut se poser la question aussi.
Voilà pourquoi nous avons, Olivier, besoin de robustesse de nos jours et effectivement, et de nous retrouver pour discuter de tous ces sujets.
Oui, je veux juste, si vous pouvez juste aborder la question de l'enjeu des cours d'eau avec l'agriculture. Parce que c'est une vraie question, en fait, rendre un peu de la terre à l'eau, en fait. Tout ce projet qui est en train de être mis en place dans d'autres régions, dans l'Indrome en l'occurrence, ces projets de chantier Castor pour justement remettre un peu... voilà, que l'agriculture laisse un peu la place et de toute façon, elle sera gagnante à la fin. Mais c'est un projet robuste, puisque c'est un projet de longue haleine qui n'est pas du tout mis en place comme ça depuis trop longtemps. Et comment est-ce que vous arrivez à faire comprendre aux agriculteurs qu'ils ont tout intérêt à redonner de la terre pour ensuite récupérer de l'eau aussi et que chacun y trouve son compte, quoi.
Alors, on n'est peut-être pas les mieux placés pour répondre à ça parce que cette problématique-là n'est pas très, très forte dans les montagnes cévenoles. Nous, on ne gère que la partie montagne. Donc, il y a quand même peu d'activités agricoles de type agriculture conventionnelle importante. Il y a utilisation d'eau pour nos agriculteurs, mais comparé à l'agriculture de plaine, il y a rien, ça n'a pas de comparaison à faire. Mais oui, Émilie. Ouais.
Peut-être pour compléter, j'imagine que tu fais référence à l'hydrologie régénérative, qui est un concept en fait qui part du principe de retenir l'eau, la laisser s'infiltrer dans les sols, et donc pour que le milieu soit au bénéfice et qu'on bénéficie de l'eau plus longtemps que sur les épisodes cévenols où l'eau est en quelques heures et nos inondations chez nous ne sont en aucune mesure des inondations de la Seine ou d'autres rivières de plaine où eux, ils trempent pendant plusieurs jours et semaines quelquefois et nous, en quelques heures, on n'a plus d'eau. Et donc, l'hydrologie régénérative, en tout cas, ce que je peux en dire au syndicat, c'est que c'est un principe qu'à travers le projet Camp Massé-Mazières, mais même Trail et Terrasse, en tout cas, c'est des choses qu'on veut commencer à instiller sur le territoire parce que ça fait partie, à mon sens, d'une des solutions d'adaptation au changement climatique. Et donc, comment on fait cette eau qui tombe tant chez nous à certaines périodes, on est en capacité de la stocker dans les sols. Alors déjà, il faut qu'on ait du sol. C'est la première étape. Donc, d'où ces réflexions et ces projets autour des terrasses et comment on maintient des terrasses et pas simplement avec des financements publics qui vont maintenir sous perfusion ces systèmes-là. Mais donc, comment on travaille sur les productions agricoles pour qu'elles soient à plus haute valeur ajoutée, comment on développe des circuits circuit court, ça c'est tous les sujets et tout ça est très lié, interconnecté pour nous. Et donc c'est travailler tous ces champs-là et donc sur l'hydrologie régénérative, il y a vraiment un champ des possibles. Alors à Chambourigo, puisque t'es de Chambourigo, vous avez quand même des personnes ressources sur Chambourigo qui déjà ont mis en œuvre et sur les Hautes-Cévennes qui ont déjà initié concrètement qui ont développé ces préceptes-là d'hydrologie régénérative. Donc c'est des choses qui sont possibles. Alors évidemment, on est dans des contextes, évidemment, mais vous connaissez le territoire, très différent de plaines agricoles où on a une production intensive. Mais ceci dit, et tu évoquais aussi la question du castor, ça c'est Baptiste Morizeau qui a mis en évidence l'ingénieur des rivières, le castor, et ce rôle majeur qu'il joue en fait. Alors on a du castor chez nous. Le castor chez nous n'est pas dans les mêmes conditions que dans d'autres rivières aussi. Donc, il n'a pas tout à fait les mêmes impacts, on va dire, sur le milieu. Mais bien sûr que la biodiversité, elle est à notre service. Ce n'est pas très joli de dire ça, je ne sais pas comment le dire, mais elle rend des services, en tout cas, on va dire. Et donc, plus on aura de biodiversité, on a évoqué à un moment donné, dans une des tables rondes de ce week-end, la question de notre sensibilité au virus, aux maladies, et où, bien sûr, plus on a de prédateurs, et plus, forcément, on peut limiter ces insectes ou les maladies qui nous environnent et dont on est, quelquefois, les premières victimes. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille tous ces sujets-là, à la fois sur les fonctions, je dirais, les paysages, c'est une notion que tu as évoquée. Je pense que c'est important parce que le paysage, ça nous concerne tous. On a tous une sensibilité au paysage, à maintenir nos paysages. On le voit dès qu'on a une coupe en Cévennes, beaucoup s'offusquent, sans jugement, parce que je pourrais faire partie de ces gens-là aussi, d'une modification profonde des paysages, et ça nous gêne, en fait. Donc, je pense que l'entrée paysage est une bonne façon de parler biodiversité, et pour nous aider à travailler sur la diversité, je pense que ça, c'est important.
Ouais, et juste un petit complément, du coup, pour donner un autre éclairage sur ce que vous abordez, la question de l'eau, et puis je reviendrai sur la discussion aussi qu'on avait avant. Le monde de la protection de la nature, de la conservation de la nature, s'intéressait à l'eau, par le passé, en tout cas pour ce que je connais, sur l'écologie de l'eau, sur le fonctionnement hydrologique de zones humides, donc de milieux aquatiques et de zones humides, de tourbières, de milieux littoraux. Mais le concept ou l'assemblage que propose l'hydrologie régénérative, je dirais, est un peu nouveau. Alors avec, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais il y a des vrais super techniciens de l'hydrologie régénérative. On vit aussi ce qu'on a malheureusement vécu avec la permaculture, avec des permacultrices et des permaculteurs très très pointus et holistiques, et d'autres qui l'ont plus saisi comme une opportunité de faire parler d'eux. Donc moi j'ai cru comprendre qu'ici on abordait avec sérieux la question de l'hydrologie régénérative, qui permet de faire ce que tu as décrit, Émilie. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que nous on essaye de l'incrémenter. Donc mes collègues font partie de l'association pour une hydrologie régénérative, là j'en ai deux qui sont à bloc là-dessus, et on essaye d'expliquer aux agriculteurs, j'aime pas trop, c'est peut-être pas ce que t'as dit, mais j'aime pas trop, je préfère plutôt informer et élever le niveau d'alerte pour qu'on comprenne, ce qui se passe, qu'on se mente pas, qu'on déconstruise des fois des a priori infondés, et qu'on prenne en compte les contraintes de tout le monde, mais qu'on se cache pas, je me cache pas derrière mon petit doigt, je m'excuse pas de faire de l'écologie, c'est juste je suis mal à l'aise avec les trucs d'éducation à ci, d'éducation à ça. Moi j'aime pas qu'on m'éduque, en fait ça me saoule, donc j'explique pas, on va démontrer, on va mettre en évidence la problématique de l'eau, et ensuite on va voir quelle marge de manœuvre on dispose. Et aussi pour nous les écologues, en tout cas nous on essaye de pousser aussi pour que les collègues s'intéressent plus au cycle court de l'eau, qu'on propose d'améliorer, de mieux gérer avec l'hydrologie régénérative. Et comme je le disais auparavant, et les bons praticiens de l'hydrologie régénérative alertent là-dessus, attention, alors là ça va peut-être
te parler qu'à toi ou à d'autres, c'est pas que des gros aménagements en fait. La première méga bassine qu'on a, c'est le sol. Le premier endroit de stockage de l'eau, ce sont des sols vivants, perméables, avec beaucoup de matière organique, avec des arbres aussi qui sont en capacité avec une fonge dans le sol, un mycélium. Là, c'est le nom du projet communal, je crois. Voilà, donc c'est pas que chambouler le paysage, c'est aussi d'abord des pratiques. Et ensuite, éventuellement, bon, là, on est dans un exemple où on a très, très fortement aménagé le paysage parce que sinon, il n'y aurait pas eu de vie humaine possible, il n'y aurait pas eu d'agriculture possible si on a fait toutes ces terrasses. Voilà. Mais on ne va pas faire des terrasses partout, ni des fossés, ni des canalisations de l'eau partout. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que ça, c'est avant tout comprendre le fonctionnement hydrologique d'un territoire, son bassin versant de façon fine. Maintenant, on a des outils et des personnes qui sont compétentes pour le faire. Ensuite, connaître les besoins et les contraintes et les limites sur la ressource en eau qu'on a sur un territoire. Il me semble que de plus en plus, on a ces données-là. Et ensuite, dialoguer. Et j'en reviens du coup à dialoguer, c'est pas une incantation, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de trouver des solutions ensemble et d'arbitrer en connaissance de cause. Et la problématique qu'on a et que vous décriviez, c'est que pour le sujet que je connais le mieux, l'agriculture, aujourd'hui, les systèmes, vous parliez d'un système de camping. Il y a quelqu'un qui a dit, c'était peut-être pour reprendre un argument, c'est ouais, mais ça rapporte des sous, ça crée de l'emploi. Sauf que ça détruit. Alors, c'est peut-être pas le cas, mais je vais parler du sujet que je connais le mieux. Une agriculture intensive aujourd'hui, souvent on me dit bah ouais, t'es bien gentil avec tes histoires d'agroécologie, mais moi j'ai un système qui est rentable. Là, ce que tu me proposes, ce sera pas rentable ou moins rentable. C'est rentable. Un système agricole intensif parce que on ne fait pas payer à ce système-là. Il y a des coûts bien réels en fait. On les appelle cachés, mais ils sont pas si cachés que ça. La dépollution. Bon, j'en parlais de ce matin, mais c'est pas grave. Je me répète. La dépollution de l'eau, les dommages sur la santé, notamment l'utilisation des pesticides, l'érosion des sols qui ont mis des milliers d'années à se créer. Tout ça, ce sont des coûts bien réels. Et on commence, grâce à des études, à approcher combien ça coûte à agréger tout ça. Il y a un bureau d'études qui s'appelle le BASIC. Je vous invite à suivre ce qu'ils font, c'est super, ils vulgarisent beaucoup de données comme ça. Ils ont estimé scientifiquement que sur un an, les coûts en termes de santé, de dépollution des eaux, donc des dépenses d'argent public qu'on paye tous à travers nos impôts, liées à réparer les dommages causés par les pesticides, ça varie entre quelques dizaines de millions d'euros, je crois que c'était 30 millions d'euros, et 1,5 milliard d'euros. Alors pourquoi il y a une telle variabilité ? Parce qu'il y a une grande confusion scientifique qui est opérée par l'industrie l'agro-industrie, pardon, qui finance de la science pour noyer le problème dans un océan de causes possibles. Le BASIC plaide plutôt pour 1,5 milliard par an, et puis vous avez des gens qui vont dire « Ah, mais il y a les cancers liés aux pesticides sont peut-être liés à d'autres choses. Qu'est-ce que vous mangez ? Voilà. Est-ce que dans votre famille, vous avez... » Bref, on connaît le sujet. C'est la même chose pour le tabac. Mais pour vous dire, il y a des coûts bien réels. Et en fait, si on les appréhendait, si on les intégrait au système agricole destructeur, c'est pas du tout rentable, en fait. Si on faisait payer à ces systèmes-là, soit directement par des taxes, soit en taxant les intrants chimiques qu'ils utilisent, ce serait plus possible. Les pesticides coûteraient trop cher. Les engrais de... J'ai cru que tu allais m'arrêter, comme tu as fait avec Yannick. Attention. Oui. Ah oui. Ah ouais. Ah ok. Ça marche. Bon ben, je m'en arrête là, mais je voulais vous le partager. Et oui, si, ça c'est important. Je crois qu'on a tous ça à l'esprit. Je sais pas si ça a été dit là, mais on a discuté notamment avec Émilie et d'autres là de nos métiers d'accompagnateurs des transitions, appelons ça comme on veut, d'accompagnateurs, des gens qui, comme vous, dans les territoires, sont sensibilisés sur ces questions et agissent et ont envie d'agir. Ça peut que se passer dans le dialogue. Le dialogue, c'est pas être d'accord avec tout le monde, mais c'est prendre en compte que chacun se sente respecté et ensuite qu'on regarde en face les problématiques qui s'imposent à nous et qu'ensuite on trouve des solutions. Pour les agriculteurs avec qui je travaille qui doivent bifurquer, il faut faire preuve d'empathie aussi, comprendre d'où ils partent, quelles sont les contraintes avec lesquelles ils composent et accepter que les choses prennent du temps. Et je le dis parce que des fois on est souvent avec plein de bonne volonté, on met des gens en difficulté, on veut tout faire en même temps, au même endroit, on veut une agriculture agroécologique qui recrée du lien social avec de la réinsertion par le travail, avec un lieu d'échange, sciences et applications. Bref, je vois ça notamment autour des métropoles là, qu'il y a sur le littoral et c'est tout à fait légitime et il faut faire tout ça, mais peut-être pas au même endroit et tout le temps, parce que c'est plus des agriculteurs ou des agricultrices, c'est des moutons à cinq pattes ou des ovnis dont on a besoin, et il faut prendre soin d'eux parce qu'ils font un métier qui est pas simple. Voilà, c'était mon petit témoignage.
Bon, ben, on va donc conclure, puisqu'il n'y a pas le choix.